Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 144. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors mon invité aujourd'hui est François Jacquet. François est le deuxième violon du Quatuor Annecy. Un quatuor qui révèle l'harmonie. Le Quatuor Annecy existe depuis plus de 30 ans et a travaillé avec plus de 600 entreprises dans 23 pays différents. Avec le Quatuor Annecy, François a reçu le premier prix de la fondation Yehudi Menuhin pour la musique de chambre dédiée à Mozart. Cet ensemble du Quatuor Annecy est une référence majeure en matière de management musical, un message dont le monde a bien besoin aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre comment nous interagissons les uns avec les autres, pour apprendre à s'entendre avec nous-mêmes et avec les autres, avec plus d'aisance et de confiance en soi. Dans cette conversation avec François, nous découvrons la vie du musicien, comment le quatuor s'est créé et est resté ensemble à longue durée. À quoi ressemble une conversation entre musiciens? Comment ils opèrent sans avoir un chef d'orchestre? La nuance dans son écoute. La différence entre une conversation sur scène versus en coulisses. Plein de stimulation, une conversation inspirante. Si ce podcast vous a plu, je vous prie de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. François Jacquet. Je suis ravi de vous avoir sur mon show pour discuter de la conversation musicale. Je vous ai entendu faire un exploit sur la scène à la conférence convention nationale annuelle de l'APM. Ça a été un vrai plaisir de vous entendre dans l'exercice et dans vos mots. Qui est François Jacquet pour démarrer?
Alors, je suis violoniste et je joue le deuxième violon dans le quatuor. Et ce quatuor donc, qui est formé de deux violons, un alto et un violoncelle. C'est un quatuor à cordes habituel, classique.
Et qu'est-ce qui vous a amené de poursuivre ce métier? Quel était votre chemin pour y arriver?
Alors, c'est un chemin très, très particulier. Alors, il n'est peut-être pas unique dans l'histoire des musiciens, mais je pense qu'il mérite d'être compté parce que sa genèse est vraiment spéciale. Quand j'étais adolescent, dans mon école, on a imaginé avec 5 ou 6 copains qui étaient musiciens d'organiser des soirées de musique et de poésie parce qu'on s'intéressait beaucoup à ça pour habiter notre adolescence, pour ne pas être… Vous savez, les ados passent leur vie à se chercher, mais là, nous, on essayait de se trouver à travers, entre autres, la poésie. Et puis, cet ensemble s'est agrandi avec des copains et copines de conservatoire jusqu'à avoir créé un orchestre de chambre de 15 personnes qui fonctionnait en autonomie, en conversation déjà, puisqu'il n'y avait donc pas de chef avec une sorte d'arbitraire. Et puis la relation qui s'est tissée entre nous, alors déjà du temps de la poésie, de la musique, puis de ce plus grand groupe, la relation a toujours été sous la forme d'échanges, d'initiatives. Je pense que l'attitude que l'on avait à cette époque nous a guidés était un ferment pour justement aller dans cette idée de conversation, de prise de parole, d'écoute, parce que nous avons vraiment tout fait entre nous. Hein, on ne dépendait de personne et je pense que tout ce que l'on développe, tout ce que l'on a vécu en quatuor vient de là. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette origine. On n'a pas du tout été dans le schéma, je dirais, un peu standard de 4 musiciens qui se trouvent sur le trottoir avec leur premier prix en poche et puis qui se disent « Ah bah tiens, j'en vois 3 autres, on pourrait peut-être faire du quatuor ». Vous voyez, l'origine de notre quatuor remonte à ces aventures d'adolescence, en fait.
Et donc, les membres de cette quatuor étaient parmi les 15 dont vous parliez?
Eh oui, bien sûr. Oui, c'est On a beaucoup échangé, on travaillait, on répétait avec cet ensemble toute l'année et on jouait des concerts en été. Alors on prenait une voiture et puis hop, à une époque j'étais le seul à avoir le permis de conduire, donc j'avais même une camionnette pour mettre les instruments. Et puis les autres arrivaient en bus. Enfin, et voilà, donc je pense que vraiment le ferment de tout ce parcours de plus de 35 ans de quatuor maintenant vient de là.
35 ans avec les mêmes quatre.
Alors, il y a eu deux changements. Il y a eu deux changements, mais les personnes qui ont été adoptées finalement par le quatuor sont vraiment rentrées dans la dynamique musicale, bien sûr, la dynamique professionnelle, et aussi et surtout dans la dynamique humaine qui était l'ADN, en quelque sorte, de notre ensemble.
Est-ce que vous pourriez me décrire un peu cet ADN? Comment vous avez... Parce que en fait, quand on parle dans les entreprises de recrutement, on va dire vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes ambitions pour rentrer dans une entreprise. Eh bien, je pense que l'idée de se comprendre à ce niveau-là est essentielle. Mais je me demandais comment ça pourrait être différent.
Alors, si vous dites que dans l'entreprise, on vous suggère, on débat sur le fait des valeurs, en ce qui nous concerne, je pense que les valeurs, on ne les a pas apprises à l'adolescence. On les a découvertes par nous-mêmes. Et là, je pense que c'est encore une richesse que d'avoir expérimenté ces valeurs par du vécu entre nous, tout ce qui était relationnel. On s'est beaucoup entraidé, on a beaucoup cherché, on s'est beaucoup questionné, on a eu des bons moments, des moins bons moments, des doutes, des joies. Enfin, avec la quinzaine de personnes, franchement, on a développé quelque chose de... C'était notre petit monde qui nous a fait grandir, qui nous a fait rentrer dans la vie adulte, si je peux dire. Mais je tiens à insister sur cette histoire de l'expérience, parce que tout ce que l'on se disait, on le mettait en note, on le mettait en discussion, on le mettait en échange, et c'était vraiment... c'était du vécu, finalement. Et donc, les valeurs que l'on développe avec le quatuor sur le plan musical et aussi sur le plan des rencontres qu'on peut avoir avec l'entreprise, toutes ces valeurs dont on parle, elles sont incarnées en quelque sorte. À notre manière, mais en tout cas, ça ne nous est pas tombé dessus comme par des biais, je dirais, cognitifs, intellectuels, de savoir. C'est plutôt de la connaissance qui nous est arrivée.
Et le vécu, au lieu d'avoir juste des mots écrits sur le mur ou dans un rapport annuel, si j'ose comparer. Alors, je parle avec vous, j'écris beaucoup sur la conversation, et j'emploie le mot « meaningful », qui a un sens. Et donc, ce n'est pas tout à fait facile, rempli de sens, comme ça. Pour vous, c'est quoi une conversation « meaningful » ?
Alors, si on part du mot anglais et que l'on va vers le français, en parlant de sens, c'est le mot le plus conventionnel. Et en français, on a la chance que ce mot a au moins trois significations. J'ai pu me renseigner un petit peu. Au Moyen-Âge, il y en avait même six.
Le sens du sens.
Voilà. Et alors, une conversation qui serait « meaningful », pour moi, elle a justement, elle est au moins comme un triptyque à propos de ce mot sens. L'acception la plus basique, je dirais, c'est de donner d'entendre, de comprendre un contenu intellectuel, de se comprendre au sens de la compréhension des mots, de leur définition. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est un peu basique. C'est au moins la coquille de la conversation. Et puis, dès que l'on rentre un petit peu dedans, avoir du sens ou donner du sens en français, c'est aussi être capable de percevoir, d'entrer dans la perception. Alors, on rentre dans une partie plus subjective de la conversation, que ce soit avec une ou plusieurs personnes. Et puis, je pense que cette qualité de perception, cette capacité de perception va animer la conversation en termes d'enthousiasme déjà, de s'exprimer, de donner, de recevoir. Ensuite, je pense que ce sens, cette perception va ajouter aussi de la conviction à ce qui est dit, va donner du poids au contenu intellectuel qui va commencer à se teinter d'une valeur en fin de compte. Et puis il y aurait une troisième acception du mot sens en français, c'est la direction, c'est-à-dire de donner une direction, de rentrer dans un projet et quelque part au fur et à mesure de la conversation aller vers le futur finalement. Et c'est aussi une manière de diriger, si je puis dire entre guillemets, de diriger la conversation pour qu'elle soit fertile, qu'elle soit productrice de quelque chose. Et puis alors après, il y a une quatrième chose, en français, c'est de parler de bon sens. Mmh. Et quand on rentre dans ce concept, enfin le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas cette idée de bon sens, ça veut dire que la conversation va peut-être devenir un petit peu plus objective dans le sens où faire preuve de bon sens, c'est aussi faire preuve de recul, faire preuve d'une certaine distance que l'on peut prendre par rapport à soi-même, par rapport à autrui, pour que la conversation soit encore plus riche finalement, qu'on ne soit pas empêtré dans des données tout à fait personnelles. On parlera sans doute d'ego tout à l'heure. Mais voilà, le bon sens, en tout cas en musique, dans notre recherche, même je dirais très technique, de la musique, quand on peut en faire preuve de bon sens, c'est intéressant. Et donc, si on mélange toutes ces définitions du sens, je pense qu'on peut rentrer dans quelque chose de meaningful. Mmh.
Juste puissant.
Voilà, ça apporte une certaine puissance, une certaine qualité.
Alors, la transcription, si j'ose dire, dans la musique, comment est-ce que vous décrirez la conversation musicale avant même de rentrer dans une conversation meaningful de musique?
Alors, la conversation musicale, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement riche parce qu'elle ne passe pas par la parole, elle passe par, en musique classique, par un texte, ça va être donc la partition qui est léguée par le compositeur. Et après, les musiciens vont s'attacher à restituer cette partition. Alors, conversation, ça sous-entend qu'on est au moins deux, ou alors, dans notre cas, à quatre. Et il y a un truc que j'aimerais vous dire, là, si je vais le retrouver. Ce qui est assez intéressant, c'est si on s'occupe de l'étymologie de la conversation, parce que moi, c'est un peu mon dada. L'étymologie, l'origine des mots. Et conversation, ça vient de converser. Converser, c'est cum, et puis versare, versere en latin, ça veut dire, en fin de compte, se tourner vers. Alors, quand on parle, dans le meilleur des cas, j'ose espérer qu'on se tourne vers la personne avec qui on échange, mais en musique, on va se tourner vers. Ça va aussi déclencher tout un phénomène d'écoute, un phénomène sonore et un phénomène panoramique dans le cadre du quatuor, parce qu'on va devoir écouter toutes les voix. Converser, c'est aussi dans des temps plus anciens, ça invite à la rencontre et jusqu'à l'intimité. Donc, dans le projet humain qui va se greffer derrière la conversation musicale, c'est intéressant. Et puis, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est qu'au XIVe siècle, en France, converser, ça voulait dire aller et venir ensemble sur une même rivière. C'est fou, hein? Si on considère que la musique est un flot, cette conversation musicale qui va s'intéresser, commencer à naître dans le quatuor, eh bien, la musique peut se comparer à une rivière et les musiciens vont aller et venir ensemble, comme ça, petit à petit. Ce que je pense, c'est à la différence de la parole, c'est que il y a la partition en classique. Dans d'autres musiques, si on pense au jazz par exemple, il n'y a pas de partition en soi, mais il y a quand même ces fameuses grilles d'accords qui déterminent un cadre et un canevas. Et puis dans le monde de l'improvisation, il y a souvent une structure, peut-être un peu cachée, discrète, mais en tout cas on n'improvise pas dans le vide. Donc la conversation musicale, elle est forcément cadrée par divers éléments. Et puis, elle ne va pas faire appel à l'intellect pour en revenir à cette première base, cette première définition du mot sens. Elle va faire appel à d'autres affects, à d'autres choses. Ça va être très très différent. Et tout ce qui va se mêler entre les musiciens dans la conversation musicale sera extrêmement riche, extrêmement riche.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'une conversation avec soi-même en tant que musicien pendant la musique?
Alors oui, alors déjà de manière très consubstantielle, si je puis dire, le musicien, il joue comme il est. C'est déjà une première chose. Il est entre soi et soi, entre lui-même et son instrument. L'instrument est un miroir pour le musicien. Quand je dis qu'il joue comme il est, ce qu'il va émettre, ce qu'il va produire, c'est selon sa nature, au sens très très large, sa nature physique, physiologique et, je dirais, surtout psychologique, spirituelle. Et puis quand ça va se mêler aux autres, eh bien, ces quatre mondes, dans le cas du quatuor, ces quatre mondes vont s'interpénétrer et voilà, c'est là que la grande aventure commence.
C'est génial, cette idée de miroir. Alors, évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez un projet humain, vous avez un concert à faire, et le déjeuner avant le concert, vous vous engueulez. Ou vous avez un contretemps, comme on peut dire. La musique, on va le retrouver dans la musique quand vous jouez? Ou est-ce que la musique, dans ce cas-là, ça permet de faire abstraction, de sublimer ce problème?
Alors là, je pense que ça va dépendre des natures de chaque musicien. En ce qui nous concerne, dans notre expérience, il y a eu des moments difficiles. Et puis, par grande chance, je ne veux pas dire par miracle, mais enfin bon, presque, depuis l'origine, au moment du concert, il y a une sorte de bulle qui va s'installer autour des musiciens. Et on entre dans un autre monde. On entre dans, justement, ça a à voir avec la conversation et l'écoute surtout. On va entrer dans une notion du temps différente. La musique, il y a un truc incroyable, c'est qu'elle n'existe que quand elle est jouée. Autrement, on est dans le silence. Le droit et le devoir des musiciens, c'est que quand il s'agit de produire de la musique, ben voilà, il faut jouer. Et dans notre cas, ce « il faut jouer » nous a fait abstraction de tout le reste, finalement. Alors, il faut jouer entre nous, il faut jouer ensuite, si c'est un concert, pas une répétition, ben il va falloir se considérer aussi d'une certaine manière, dont on parlera, je pense, tout à l'heure, considérer le public. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que la musique va devoir exister au moment où il faut. Et voilà, donc ça fait abstraction de tout. Alors, de manière un peu plus plate, on pourrait dire qu'il y a aussi un professionnalisme qui fait que, sur le moment, il va falloir être là et faire ce qu'il faut. Et puis, encore une fois, dans notre cas, petit à petit, avec le temps, les moments où les sujets de crise ont été gérés de manière beaucoup plus rapide que dans notre jeunesse, et puis beaucoup plus efficace. Bon, expérience, maturité, l'apport des vies personnelles aussi. Un quatuor, c'est quand même un sacré mélange de plein de choses, bien, bien, bien au-delà des notes de Mozart ou Schubert.
J'imagine, évidemment. Et la question qui me vient, c'est quand vous avez à faire la même chose, nuit après nuit, par exemple, un show Broadway, il y a tout l'orchestre, ils doivent jouer exactement la même musique, nuit après nuit. Dans le quatuor, ça vous arrive d'avoir des performances où vous devrez refaire la même chose plusieurs fois de suite?
Alors, oui et non. En tout cas, pas au moment du concert, parce que, comme je disais, la musique n'existe que quand elle est produite, quand elle est jouée, donc forcément, ça sera différent. Les rares contraintes qu'on ait pu avoir, et encore très récemment, c'est de devoir jouer de la musique, la française en l'occurrence, sur un film que nous avons produit. qui raconte l'histoire d'un érable sycomore qui, on le voit depuis sa naissance dans la nature, dans la forêt, jusqu'à sa coupe et jusqu'au moment où il se transforme en violon, en instrument. Et ce film dure 55 minutes et toutes les vues, on a vraiment adapté la musique à la vision, au film, hein, aux images. Et là, chaque fois qu'on donne ce concert, on n'a pas plus de 2 secondes de marge par pièce de musique. Et ce sont des pièces qui durent plusieurs minutes. Donc 2 secondes sur plusieurs minutes, c'est minuscule. Et là, alors, bien sûr, sur la partition, on a dû mettre des petits repères. On a écrit qu'il y avait tel oiseau, tel arbre, tel ciel, telle montagne, enfin, pour essayer de vivre. Alors, c'est intéressant, ça tient un peu du challenge. Et c'est un petit peu quand même un petit peu perturbant, pour être vraiment honnête, parce que à la fois on doit jouer, puis on doit aussi un peu regarder nos repères, être sur l'écran. On a aussi un timing, un chronomètre également. Voilà, ça c'est. Mais ça existe. Ça existe.
Génial. Je dois juste évoquer le fait que je viens tout juste d'enregistrer une conversation avec un homme qui fait des conversations avec des arbres.
c'est vrai, oui. Dans ce film, il y a juste un moment, il y a une voix off à quatre endroits, et cette voix off, c'est l'arbre qui parle finalement et qui dit que quelque part il va sublimer sa propre nature en devenant musique.
Donc j'adore.
C'est fort. Et dans le cadre de notre quatuor, si je peux ajouter un petit mot, les 4 instruments sont fabriqués pour ce qui concerne l'érable avec des pièces d'érable qui viennent du même arbre, d'un seul et même arbre.
Wow.
Et dans l'histoire de la lutherie, on pense qu'il n'y a que 3 quatuors qui ont été construits comme ça par des luthiers, donc par un luthier qui a travaillé dans notre cas pendant 1 an et demi pour construire le quatuor avec les mêmes pièces de bois. Et c'était pour exprimer au moins une des valeurs que l'on cherche à faire vivre en quatuor, c'est celle de l'unité. La diversité, ce sont 4 modèles de maîtres anciens, de Crémone, mais l'unité, c'est ce vieil érable, puisque quand il a été coupé, il avait déjà 600 ans.
600 ans de sagesse.
Exactement, et 50 ans de séchage avant d'avoir été travaillé par le luthier. Et là, depuis 22 ans qu'on a ce quatuor, il a une nouvelle voix, il s'exprime. Voilà.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous n'aviez pas, dans les 15, vous n'aviez pas de chef d'orchestre dans le quatuor, évidemment. Alors, la question qui se pose hors cette histoire de film où il y avait un tempo imposé, comment est-ce que vous gardez cet ensemble? Cette histoire d'une équipe sans chef, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très étranger pour la plupart des gens, que ce soit une équipe de foot, une équipe de travail. Donc, comment est-ce que vous gardez le tempo? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur? Qui sanctionne qui?
Alors, l'histoire de tempo, si l'on suppose, parce que ce n'est pas toujours ça, mais si on suppose qu'un chef d'orchestre est le responsable pour synthétiser la mise en forme d'un ensemble de personnes, hein, donc un orchestre, donc effectivement, un chef, on peut penser qu'il assure la pulsation. Et puis dans la pulsation, on intègre les rythmes et tout ça se construit. Alors dans notre cas, alors ça c'est propre entre autres au quatuor, mais aussi généralement à la musique de chambre, c'est que le tempo, il va être co-construit. Il va être issu d'un maillage interne. Donc, en tout cas, ce tempo ne vient pas de l'extérieur, comme un chef vers un orchestre, hein, qui le suggère à un orchestre. Il est co-créé, co-construit de l'intérieur. Alors, de manière un petit peu technique, et sans trop rentrer dans les détails musicaux, on pourrait dire que les valeurs les plus courtes vont devenir la référence. Par exemple, si un des musiciens a des croches et que les autres ont des noirs, bah, il va falloir que les noirs s'adaptent aux croches. Voilà, c'est comme ça qu'il y a un premier tricotage. Après, bon, je ne vais pas ces détails, c'est beaucoup plus complexe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette co-construction, elle doit être intelligente. Alors, on regarde la partition conductrice, où il y a les 4 voix du quatuor, Et puis, on va, par le travail, on va décider qui des quatre musiciens sera le mieux à même d'assurer ce guidage, en quelque sorte, pour les autres. Et puis, d'un commun accord, alors responsable, mais surtout intelligent, hein, vraiment honnête, si je puis dire, sur le plan intellectuel, de se dire, bon, bah là, c'est par exemple le violoncelle on va devoir se greffer sur les rythmes du violoncelle, ah bah là, c'est l'alto, tiens, là, c'est le deuxième violon, c'est le premier. Donc, on se répartit les rôles, et puis, ça se maille, ça se tripote. Alors, encore une fois, c'est une conversation très subtile, finalement, d'avoir la capacité auditive, la capacité technique, la capacité d'attention aussi, d'aller chercher les informations chez la personne qui aura été déclarée comme responsable sur le moment. Alors parfois, ça change toutes les 2-3 secondes, hein. Ça va très très vite, cette conscience de la fonction de chacun. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc la responsabilité, elle est partagée, elle n'est pas unilatérale. Et puis, non seulement partagée, mais acceptée. Et puis, cette capacité à changer très vite de casquette. Je suis le leader. Ah, maintenant, c'est plus moi, je dois chercher l'info ailleurs. Ah, tiens, je reviens là pour 2 mesures. Et puis hop, ensuite, ça passe à quelqu'un d'autre. Donc, ça n'arrête pas de bouger. Là, quand je parle d'intelligence, c'est que chacun doit vraiment bien, bien savoir à quel moment il doit fournir sa contribution pour ça. Et puis,
Welcome, change agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you, and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.
Si je peux, j'ai l'impression qu'il faut donc avoir un chef pour jouer, alors que c'est un rôle partagé, collaboratif, intelligent. Mais quand même, il y faut un chef.
Alors, le vrai chef, c'est le compositeur. Ça, déjà. Et puis, lui ne s'est pas occupé de la réalisation, de la restitution technique de son œuvre. Par contre, il a la construction, hein, de la structure de l'œuvre. Alors, quand on dit chef, alors ça dépend quel sens on lui donne, parce que ce n'est pas, dans notre cas, ce n'est pas un chef avec une autorité arbitraire. Quand je parle d'intelligence, de comprendre comment la partition est construite et comprendre comment on va se répartir les rôles, ce n'est pas par un phénomène d'autorité, c'est d'autorité froide et arbitraire dans le cas d'un chef. Souvent, c'est une autorité encore une fois co-construite et acceptée par les autres. Alors, comme j'aime bien l'étymologie, hein, autorité, ça vient de, il y a entre autres comme mot dedans le mot auteur, ça veut dire quelqu'un qui crée. Pour moi, la vraie autorité, ça tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est échangé, qui est construit, qui est mis en œuvre, enfin ainsi de suite. Et puis ça marche.
C'était rigolo parce qu'au tout début, vous avez dit il y a un texte. Et je suis musicien, mais je n'aurais pas pensé au texte des notes pour la musique comme étant un texte. Évidemment, pour moi, c'est plutôt l'opéra où il y a du chant et c'est les mots là, en dessous, chantés, qui sont le texte. Donc, c'était juste une petite remarque de différence.
Oui, c'est une écriture aussi, hein, la musique.
Et ça m'étonne chaque fois que je suis dans le transport public et je vois un musicien en train de lire la partition. Ça m'a toujours bluffé, cette capacité. Comme si moi, je suis en train de lire Victor Hugo et vous, vous êtes en train de lire des notes.
Et de les entendre dans le meilleur des temps. la lecture, elle passe par les yeux, la lecture d'un article, quelque chose comme ça. Et quand tout va bien, alors ça dépend aussi des musiciens, mais quand tout va bien, de contempler la partition, elle se transforme en note. C'est comme si on lisait avec les oreilles, finalement.
À ce propos, car Hervé Franceschi, qui parlait avec les arbres, disait qu'en fait, sa communication avec les arbres est multisensorielle. Je peux supposer ainsi que dans la musique, la notion de la vibration corporelle, presque dans les tripes, fait partie de la conversation, parce qu'il y a les yeux que vous regardez, il y a l'oreille qui entend. On pourrait même imaginer qu'il y a la notion des cordes, je ne sais pas comment on appelle ça, the bow.
L'archet.
L'archet. Aussi avec ses poils, je pense.
Bien sûr, bien sûr. Et puis tout le corps est engagé en musique. Tout à l'heure, je disais que un musicien joue comme il l'est. Alors, c'est comme il est, on va dire en gros au niveau psychologique, mais au niveau physique, ces fameux effets miroirs que propose l'instrument, l'instrument vibre comme le corps de la personne, finalement. C'est un patrimoine sonore de chaque être humain a une identité sonore. Alors elle s'exprime pas tout le temps, mais sauf que dès que l'on joue un instrument, c'est cette identité là en partie, entre autres, qui va se manifester en sensibilité. On se sert de l'aspect physique. Il y a l'aspect très visible des mouvements pour se donner des informations, pour se sentir tout ça, mais il y a plus que ça. Il y a un aspect de relation d'énergie entre nous. Il y a vraiment, c'est manifeste. Et tout ça, cette conscience-là est apparue au fil des années, hein, par l'expérience, par les. Allez, je n'ai jamais compté le nombre de dizaines de milliers d'heures qu'on a passées ensemble, mais je pense qu'il y en a un paquet. Il y en a beaucoup.
Certainement.
Et quand il est arrivé parfois pour une occasion un peu anecdotique de remplacer un des musiciens pour un petit temps, l'identité du quatuor change. Mais alors ça, c'est immédiat. C'est immédiat. On remplace quelqu'un pour une heure, pour deux heures, pour une petite chose pas très importante, et paf, tout change. Le son, le recueil d'informations, la manière d'émettre les informations, et puis encore une fois, cet assemblage de corps, si je peux dire. De physique.
Et ceci est encore plus frappant, j'imagine, plus longtemps vous êtes ensemble.
C'est ça, oui. On a eu la chance de passer 3 ans avec le Quatuor Amadeus à Cologne, comme élève. Ils nous avaient pris généreusement sous leur aile protectrice. Et ces musiciens-là ont vécu 40 ans ensemble, de carrière, ensemble, les quatre mêmes. Et jusqu'au décès de l'altiste. Et on était avec eux à Cologne quand ce monsieur est décédé. Et ils avaient décidé, déjà 25 ans auparavant, ils avaient décidé que s'il y avait un problème, ils arrêteraient le quatuor. Il n'y aurait pas de remplaçant. Donc vous voyez hein, à quel point ça peut être riche, ce chemin de vie.
Contrat de vie. Alors, on a un peu parlé d'avoir des moments d'effrottement. Vous êtes 22 ans ensemble. J'ai aussi évoqué l'histoire d'avoir une erreur quand vous jouez. Donc, les frottements. Là, je cherche à savoir combien c'est important d'avoir eu des frottements pour le bon maillage par la suite.
Alors, si on parle de l'erreur purement musicale, évidemment, on fait des erreurs. Hein.
Quoi ? Vous n'êtes pas parfait ?
Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Quand on intervient en entreprise, il y a une chose que l'on dit... haut et fort, c'est que si on attend d'être parfait pour monter sur scène, alors je pense qu'on ne montera jamais. Ou alors, faudrait être doué d'une grande dose d'inconscience et d'aveuglement de soi et de ce que l'on fait. Et voilà. Et donc, alors, les erreurs existent. Et ce qui est intéressant en musique, mais là, dans notre cas particulièrement en quatuor, c'est que et on en revient à l'écoute et à cette qualité de conversation, c'est que quand erreur il y a, on a la chance que les trois d'une personne, par exemple, on va dire, que les trois autres vont l'entendre, puisqu'ils sont là hein, quand ils jouent, et tout d'un coup, il y a une sorte d'amortissement d'amortissement, d'absorption de l'erreur par les trois autres, qui fait que cette erreur va être amortie, récupérée. Et dans le cas au moment d'un concert, par exemple, là où il y a une production dans l'instant, s'il y a erreur, elle va être, dans le meilleur des cas, elle va être rattrapée en moins d'une seconde, une, deux secondes. Ça va très, très vite. Et au point même que parfois, parce que la personne qui fait l'erreur, a priori, elle ne s'en aperçoit pas. Ce sont les autres qui vont s'en apercevoir. Il y a tout d'un coup une petite accélération, une note qui n'est pas dans l'intonation, dans la justesse, un ralenti, enfin, je ne sais pas quoi, une petite distraction. Donc la personne qui fait l'erreur ne s'en aperçoit pas, les autres s'en saisissent, récupèrent, et en même temps, bien sûr, ils amortissent l'erreur sur le plan auditif, mais ils récupèrent aussi la personne qui tout d'un coup, qui est remise en route. Et il y a un truc dingue, on a souvent constaté que parfois, même, ça va au point qu'on ne sait même pas qui a fait l'erreur, tellement elle a été rattrapée vite et puis absorbée. Enfin, hop, récupérer comme ça. C'est étonnant. Hein. On gère le très court moment de malaise par une souplesse, par un rattrapage. Et en tout cas, on ne va pas aller fusiller du regard la personne qui a fait la bêtise. C'est contre-productif, ça ne sert à rien, ça déconcentre, ça dérange, ça crée du stress, ça... Enfin bon,
J'étais juste en train d'imaginer un moment où c'est dans un moment de cœur, en fait, quelque part, quelque chose qui se répète plus tard dans la partition. Vous faites l'erreur dans ce moment, il va revenir une autre fois. Et est-ce qu'il y a un petit regard en disant, tiens, est-ce que tu vas le faire encore? Ou comment ça se passe?
Oui, tout arrive. Quand on a beaucoup travaillé les morceaux, qu'on peut un petit peu s'en libérer, être un petit peu au-dessus de. Prendre un peu de recul là, au-dessus des événements comme ça musicaux, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges entre nous. Et dans le cas d'une erreur, alors, le plus souvent, alors en concert, hein, le plus souvent, s'il y a une reprise de ce passage où il y a eu une bêtise, on va plutôt le passer discrètement. On va pas trop s'appeler youhou, tu te rappelles il y a 3 minutes. non, voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, on y pense, bien sûr, on le sait. Parce qu'on pourrait se dire aussi, oh, mais tiens, est-ce que la bêtise va être refaite?
Voilà.
Est-ce qu'il faudra gérer à nouveau ou différemment ou quoi? Et oui. Non, mais c'est. On arrive aussi à être assez. Alors, pas caché, hein, mais en tout cas assez discret avec ce genre de moment.
Du coup, il y a des conversations dans sa propre tête avec soi-même. Il y a des conversations qui passent par la musique, il y a aussi de l'énergie qui s'échange. C'est tout un mélange de moyens, de canaux pour la communication.
Oui, alors ça, c'est sûr. Et plus ça va, plus ce maillage dont je parlais tout à l'heure va s'épaissir. Il y a des personnes, il y a longtemps, qui cherchaient où était situé l'esprit. Quand on parle de l'esprit dans le monde spirituel, est-ce qu'il est dans l'homme, est-ce qu'il est dans le ciel, est-ce qu'il est dans les trous noirs là. Et puis, il y a un chercheur français qui avait imaginé que des champs d'énergie que l'on trouve dans l'univers, donc c'est comme un tricotage, il y a la chaîne, et comme un tissage, la chaîne et la maille. Et lui, il situait la présence de l'esprit aux intersections, parce qu'il y a, la somme des énergies qui ça s'ajoute sur une intersection, puisque ça se croise. Et c'est intéressant comme thèse sur le plan scientifique, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Et en musique, ce tricotage dont je parlais tout à l'heure au niveau simplement de la création du rythme entre nous, il se remplit aussi de l'aspect mélodique, donc c'est le côté horizontal de la musique, je dirais. Il se remplit aussi du côté harmonique, c'est-à-dire l'aspect des accords qui sous-tendent, qui supportent la mélodie. Et puis, j'aime bien cette image de dire qu'il y a aussi une diagonale. Parce que mélodie horizontale, harmonie verticale, ce qui est intéressant de vivre en conversation dans l'instant qui est joué, c'est ça, c'est la diagonale. Parce que quand on joue, on est dans une forme de tension. Cette tension, elle est comme s'il y avait une flèche comme ça, parce que la musique, elle se déplace un peu dans le futur. La musique, c'est important qu'on soit toujours une demi-seconde avant elle pour l'emmener vers le futur. Donc ça, c'est une forme de tension. Ensuite, il y a la tension de ce qui va tendre la musique et la détendre, parce que la musique, c'est un phénomène pulsatoire, c'est comme un cœur, c'est comme le jour et la nuit, c'est tension et détente, c'est une respiration, comme la grande vie de l'univers. Hein. On sait qu'il est en expansion, puis qu'un jour, il devrait se réduire. Et puis, une tension, c'est aussi par l'écoute, c'est le fait de, ne serait-ce que l'intonation sur nos instruments. On n'a pas de repère, c'est très facile de jouer faux. Mais moi, quand je pose un doigt sur mon violon, je ne le pose jamais pour lui-même, je le pose en fonction de ce que j'entends dans le contexte, pour qu'il s'adapte à la justesse. Et ça se joue c'est des dixièmes de millimètre, c'est minuscule. Et donc, tout ce maillage devient de plus en plus riche, on pourrait dire, en énergie. Il y a la pulsation, il y a la mélodie, il y a l'harmonie, il y a la diagonale, il y a tous les paramètres techniques de nos instruments, et Dieu sait si c'est complexe de jouer des instruments à temps. Et tout ça, c'est de l'énergie, oui, qui se promène.
Alors François, j'ai un peu évoqué ce sujet de dispute, etc. Et je me demandais à combien vous jugez que, ayant eu ces problèmes, les disputes, etc., combien ça aide à renforcer l'épaisseur dont vous parliez.
Alors, les disputes, elles ont été, parce que je peux presque parler au passé, parce que ça fait quand même plus de 35 ans qu'on joue quatuor, elles ont existé, et puis quand petit à petit on les a analysées, on sait, pour une grande part, les disputes, elles viennent, alors en gros, des égos des personnes, mais elles viennent des personnes, elles viennent des individus. Alors, l'individu, sur le moment, il est dans son état là, son état du moment. Il a sa dose d'ego qui l'habite aussi, hein, qui est là, qui petit à petit, au fil du temps, va évoluer. D'ailleurs, on en parlera peut-être. Et puis, c'est aussi une forme, c'est une expérience de dispute. Parce qu'au fil du temps, on s'est dit, mais au fait, qu'est-ce qui a généré la dispute ? Quand elle est terminée, on peut aussi un peu l'analyser. Hein. Alors, c'est pour beaucoup, alors pour une bonne partie, c'est de l'ego. Pour une bonne partie, c'est mental. C'est parce que il y a eu. Alors, quand je dis c'est mental, c'est par rapport à la partition, par rapport à la situation du moment, au temps de la répétition, parce que c'est souvent à ce moment-là, hein, les engueulades. C'est une absence de conscience aussi, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de prise de distance, et puis c'est comme ça, c'est une colère aussi. Alors la colère, bah, à un moment elle peut aussi sortir, mais d'être en colère vers un collègue, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il ne fait pas ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait mis au point? C'est très très complexe, l'origine d'une dispute. Donc par chance, avec ces fameux milliers d'heures qui ont passé, on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, on a petit à petit appris à gérer que dès qu'il y avait un frottement, plutôt que de le laisser enfler, le laisser grandir, il fallait le poser sur la table et puis le contempler, le regarder. Et en général, quand on le voit, que ça soit une dispute au niveau des personnes ou au niveau du travail, au niveau professionnel ou de la partition, quand on pose tout ça sur la table, on se dit, bon, quel a été le détonateur de la chose? Et bien souvent, on a appris à laisser le détonateur personnel, le laisser de côté, parce que ça, c'est irrationnel et puis c'est pas très important. Par contre, de chercher la cause, je dirais presque technique, de la dispute. Et là, en posant la partition et en regardant vraiment humblement et surtout avec du recul, on trouve toujours la solution. Et là, on désamorce tout de suite. C'est que la partition n'avait pas été assez comprise, pas assez analysée dans sa technique, mais aussi dans les idées d'interprétation. C'est qu'il manquait quelque chose. La dispute, c'est souvent qu'il manque quelque chose. Donc, il y en a un qui ça va sortir, et puis, mais plutôt que de s'emballer, voilà, avec le temps, hein, on pose et on regarde. Wait and see.
J'adore l'idée de prendre du recul, de poser sur la table. Il nous reste peu de temps, donc je vais me concentrer sur une dernière question. On a évoqué un peu la place de l'ego, la personnalité, et j'aurais envie de rajouter la place de l'empathie dans la conversation musicale que vous vous faites ensemble.
Ah, alors, au niveau de l'ego, petit à petit, sur le plan professionnel, mais alors surtout sur le plan humain, on a toujours estimé, enfin, vraiment l'idée s'est de plus en plus posée que le Quatuor, c'était un laboratoire d'humanité. Peut-être qu'un jour, ça tournera en laboratoire d'humanisme, mais en tout cas, un laboratoire d'humanité, un laboratoire de rencontre. Et qui dit rencontre, dit rencontre des égaux, forcément, ça c'est sûr. Et pour petit à petit gérer ces quatre égaux. En fait, l'ego, c'est soi-même. Enfin, chacun est en prison de soi-même jusqu'au moment où sa conscience va s'expanser. Chacun est dans sa propre prison, il s'en aperçoit même pas, dans sa propre nature égotique. Et ce que l'on a pu vivre avec le temps, c'est que c'est l'expérimentation qui règle tous les problèmes. Ou du moins 99% des problèmes, parce que plutôt que de rentrer dans cette lorgnette, cette loupe déformante de l'ego, encore une fois, on prend du recul, technique ou de la rencontre humaine, interpersonnelle, on prend du recul et on met à plat. Et à ce moment-là, les égos se dégonflent tout de suite, quoi. Et puis, est-ce qu'on a eu de la chance avec nous quatre, plus les deux moments de remplacement, enfin les deux changements de musiciens, je pense que nos natures, petit à petit, au départ étaient peut-être, je ne sais pas, relativement favorables par rapport à ces démarches égotiques, mais en tout cas, on a appris à faire abstraction au mieux de ce phénomène d'ego et de construire une entité quatuor comme ça, plus libre, en fait, plus ouverte.
Et donc, du coup, en fait, il y a co-construction de la culture de votre quatuor, une co-construction de vous, comment vous gérez, presque une co-construction d'une ego au-dessus qui...
Oui, alors, on peut le dire comme ça, ou alors d'une... notre fameux prof de Berlin, là, et qu'on a eu après le Quatuor Amadeus, Eberhard Fels, a toujours parlé d'un phénomène de coupole, de chapelle, un phénomène d'égrégore. Vous voyez, cette rencontre d'un collectif qui va mûrir, qui va grandir, et qui va se mettre dans un état de résonance, enfin en tout cas un état de synergie humaine. Et ça, c'est intéressant. Alors, au fil du temps, on peut espérer qu'on a enlevé les parasites. Alors, l'ego en fait partie des parasites. Et puis, on peut espérer qu'on a apporté de la matière sonore, de l'assemblage sonore, et encore une fois, seulement dans le temps que c'est joué, hein, la musique. Il n'y a pas de trace après. C'est dans l'instant que ça se crée. Et dans le meilleur des cas, imaginons dans une bonne acoustique, par exemple au moment d'un concert, cet égrégore va grandir et va se mettre sous forme d'une coupole, comme ça, d'une chapelle synergique, ce qui fait que la somme des quatre personnes va devenir un quatuor en état de pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1, ce phénomène d'égrégore, et 1 plus 1 plus 1 égal plus que 4. Et sur le plan humain, c'est très intéressant. Alors nous, on le réalise aussi sur le plan sonore, avec la mise en phase des sons harmoniques que l'on produit pour que finalement, le quatuor joue à plus de voix que les quatre qui sont vraiment concrètement émises.
C'est tout à fait marrant que mon ami Hervé Franceschi a parlé de l'égrégore dans la nature. Quand il parle avec les arbres, il regarde d'abord à distance, ensuite il rentre sous le canapé de l'arbre, et là, tout d'un coup, arrive cet égrégore quand il est en attente, quand il est calme, quand il écoute. Juste pour dernier élément qui était sur l'histoire de l'empathie, la place de l'empathie quand vous conversez, est-ce que c'est quelque chose que vous en avez parlé ou c'est quelque chose qui est juste implicite?
Alors, bon, c'est implicite. D'un autre côté, encore une fois, grâce ou à cause de ces heures que l'on a passées ensemble, l'empathie, c'est presque automatique. Enfin, en grec, empathie, ça veut dire paten, c'est souffrir, hein, c'est souffrir, et puis le en, c'est à l'intérieur. Donc, il y a cette rencontre qui existe depuis tant d'années. Elle a créé toutes les passerelles qui sont nécessaires. Et quand on a quand l'un ou l'autre a un problème, que ce soit de santé, là actuellement on a un petit souci à ce niveau-là, ou de un peu de mal-être, curieusement on fait avec, on prend, on considère, on parle, on échange. Là c'est plus le plan musical, c'est le plan personnel d'un esprit d'équipe, enfin quelque chose de vraiment fort. Alors on peut
C'est pour ça que je parle souvent de ce besoin de dispute, de mauvais moments, d'erreurs, parce qu'en fait, c'est une petite souffrance ou des expressions de souffrance et les pathos. Et j'écris sur ce mot-là, donc j'en suis d'accord. Alors François, génial, j'ai adoré, ça m'a fait penser à plein de choses. Comment est-ce que quelqu'un qui écoute pourrait vous entendre ce film, par exemple, ou aller voir votre site s'ils sont intéressés par vous avoir dans l'entreprise? Dites-nous des liens pour que je les mette dans le show notes.
Ah, alors, notre site, c'est quatuoranessi.com. Donc, Annecy, S-C-I. On a une chaîne YouTube. Il y a des publications audio, enfin non, surtout vidéo. Alors certaines qui viennent de nous, soit un petit teaser, soit des petites choses, bon, admettons, mais il y a aussi des choses qui ont été placées par des personnes qui ont souvent enregistré depuis des téléphones ou quoi. Alors là, évidemment, c'est mauvais. C'est à déconseiller. Je pense que le plus d'informations, c'est sur le site, et il est également en anglais, ce site.
Voilà, chaud. François, un grand merci.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.